À 18h55, l'heure de l'édito. Anthony, nous sommes en Australie ce soir, qui rattrape un peu son retard et vote pour ou contre le mariage gay.
Et l'on vote uniquement en glissant dans une son bulletin dans une boîte aux lettres. Le vote s'étale sur deux petits mois. Le vote s'étale sur deux petits mois et a commencé le 12 septembre. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas un référendum, figurez-vous, mais une consultation postale. Ça signifie surtout que le résultat de ce drôle de vote ne sera pas contraignant pour le législateur, qui ensuite devra modifier la loi. C'est compliqué à souhait, ça montre bien combien le sujet divise la classe politique australienne, et ce depuis au moins une dizaine d'années. L'actuel gouvernement espère qu'un oui franc et massif l'aidera à vaincre les réticences des parlementaires. C'est d'ailleurs le chemin que prend cette consultation postale. Donc, selon un premier sondage, les trois quarts de ceux qui ont déjà voté auraient dit oui. Un chiffre presque beaucoup plus élevé même que les Australiens favorables au mariage gay. Ils sont environ 60 à 65%.
Alors, on a quand même un peu de mal à comprendre pourquoi l'Australie est si réticente.
Puisque c'est la dernière. C'est vrai que l'image que renvoie l'Australie est plutôt très favorable à la communauté LGBTI. La Gay Pride de Sydney est devenue, même au fil des années, un must. Une des plus impressionnantes au monde et une vraie attraction touristique. Et pourtant, l'Australie est un pays occidental assez paradoxal. C'est une sorte d'exercate ou d'excroissance de l'Europe anglo-saxonne en Asie. Elle s'est toujours vécue comme une citadelle assiégée. On les comprendrait presque. Ils sont 24 petits millions, alors que leur voisin immédiat, l'Indonésie, flirte avec les 260 millions d'habitants sur un archipel d'îles étroites, seul contre tous les autres donc. Rapporter la question gay, ça signifie aussi une société très conservatrice, attentive à son identité religieuse, très à l'écoute de son hinterland et donc très méfiante vis-à-vis de la nouveauté. C'est la pire des combinaisons pour le mariage gay.
Mais donc on dit que le plus dur est fait, que l'Australie aura bientôt son mariage pour tous ou pas ?
Oui, ça on peut le dire déjà d'ores et déjà. Et puis en Occident, il n'y aura bientôt plus que l'Italie et l'Europe de l'Est pour résister encore et toujours à l'envahisseur. J'emploie cette référence astérixienne à dessein. Pour une bonne part de l'humanité, effectivement, imposer les droits LGBT, c'est perçu comme de l'impérialisme culturel. Alors là, il faut expliquer. D'un certain point de vue, on peut même presque dire qu'ils n'ont pas tort. La différenciation clinique entre hétéro et homosexualité est une affaire occidentale qui s'est jouée chez nous à la fin du 19e siècle. De la même façon, l'apparition d'une identité homosexuelle est une affaire occidentale aussi. C'est entre l'Europe et les États-Unis que l'on est passé de « je couche avec des hommes ou des femmes » à « je suis gay ou lesbienne ». Je suis aussi hétéro d'ailleurs, c'est un peu la même idée. Autrement dit, lorsqu'on enjoint à l'Afrique, au Moyen-Orient, mais aussi à l'Asie tout entière d'adopter des lois protégeant ou dépénalisant les gays et les lesbiennes, ou d'adopter le mariage gay, ces pays y voient souvent un complot de l'Occident pour en finir avec leurs différences culturelles. Une anecdote, tenez.
Allez-y.
En 2013, Barack Obama visite le Sénégal et promeut les droits des gays et des lesbiennes. C'est son agenda. Le président Macky Sall lui répond que l'Afrique ne professait pas la polygamie en Occident. Pourquoi devrait-elle adopter, séance tenante, le mariage gay ?
Voilà, l'impression quand même générale est plus favorable que ce que vous nous expliquez.
Oui, bien sûr. Pour une raison bien simple d'ailleurs. Ces accusations de colonialisme culturel ne tiennent pas dans le monde qui vient. Un monde globalisé où l'éducation de masse a unifié les connaissances et où l'essentiel de l'humanité est citadine. Contre cela, les conservateurs ont déjà perdu la partie.